France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Présents dans de nombreux contes et légendes, ces animaux ont eu pendant longtemps mauvaise réputation. Aujourd'hui, les chouettes et les hiboux sont protégés. Pourquoi sont-ils si précieux pour nos écosystèmes ? Le hibou, qui n'est pas le mâle de la chouette, fait partie avec sa consœur de l'ordre des strigiformes. Leur physionomie fait d'eux de redoutables prédateurs. Leurs yeux disproportionnés, leur vision binoculaire précise même dans l'obscurité. Leur capacité à tourner la tête à 270 degrés et une ouïe 10 à 30 fois plus performante que la nôtre. Sans parler de leur vol parfaitement silencieux et de la structure de leurs plumes qui ne laisse échapper aucun son. Sans leur ululement si singulier, ils seraient les chasseurs les plus furtifs de la nuit. Rapace nocturne, c'est chouette. Frédéric Giguet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ornithologue, professeur en biologie de la conservation au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Simon Potier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en écologie sensorielle et nous sommes en ligne avec Cédric Marteau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Alors X, ex-Twitter, n'étant plus du tout une plateforme fréquentable, nous avons migré sur Blue Sky et nous vous invitons à nous y rejoindre. C'est sur notre compte @sciencecqfd et vous y retrouverez toutes nos sources et toutes nos ressources. Alors quelles sont les caractéristiques anatomiques des chouettes et des hiboux ? Pourquoi certains rapaces se sont-ils donc amis à vivre la nuit ? Et quelles sont les particularités redoutables de ces prédateurs nocturnes ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. En 1973, leur protection s'organise.
Il y a des préjugés et des légendes dont sont victimes les malheureux rapaces nocturnes. Et j'ai eu la preuve encore récemment, alors que nous sommes en 1973, que les Français avaient beaucoup à apprendre. Puisqu'ils ont encore peur dans nos campagnes des chouettes. Et on m'a dit ces jours-ci, « Oh, le soir, on entend les chouettes, ça porte malheur. On ne voit plus de chouettes clouées sur les portes de grange. On voit de moins en moins de chouettes accrochées sur les pièges à poteaux. » Mais tout cela, c'est de l'information. C'est, si vous voulez, des traces, des préjugés et des traces très moyenâgeuses. Tous les rapaces nocturnes de France, comme tous les rapaces en général, ont un rôle très précis dans l'équilibre naturel. Et ce sont des rapaces particulièrement utiles parce qu'ils ne se nourrissent que de souris, de mulots, de campagnols, de rats, de gros insectes et très occasionnellement, exceptionnellement, d'oiseaux en période hivernale quand la neige recouvre le sol en particulier. Mais ce sont des oiseaux tous très utiles. Et enfin, depuis 1973, vous le savez, tous les rapaces, quels qu'ils soient, sont protégés. Mais tout cela est très difficile à appliquer sur le terrain.
Il y a de moins en moins de rapaces nocturnes dans notre région. À quoi peut-on attribuer cela ?
Le problème est toujours le même. L'homme avance, la nature recule. Le déséquilibre est souvent définitif. Et les chouettes dans notre région ont été victimes de la disparition des vieux vergers traditionnels comme ceux que vous avez là autour de nous dans une réserve intégrale. Plus de vieux arbres, de moins en moins de trous et de plus en plus de difficultés pour se reproduire puisque ces rapaces niche particulièrement dans les trous d'arbres.
La voix du naturaliste Jacques Bouillot dans l'émission Bol d'air en 1973 sur l'ORTF. Cédric Marteau, comme on l'entend dans cette archive, on peut dire que la chouette, les hiboux, ce sont des animaux avec une aura particulière.
Effectivement, ce sont des animaux qui ont passionné et qui continuent à passionner des générations, des populations entières, mais qui malheureusement, et cela depuis le Moyen-Âge, ont eu mauvaise réputation, ont souvent été considérés comme étant des oiseaux porteurs de mauvais sorts, liés à la sorcellerie, notamment à une certaine époque. Et donc il a fallu, il le faut encore aujourd'hui, corriger, démystifier l'ensemble de ces oiseaux qui nous sont précieux et dont la France a la chance d'avoir une richesse assez incroyable puisque nous avons 9 espèces présentes, 5 espèces de chouettes et 4 espèces de hiboux et qu'on a évidemment une chance d'avoir ce patrimoine naturel qu'il faut préserver.
Frédéric Giguet, on entendait dans cette archive, voilà, les Français ont encore beaucoup à apprendre. Depuis la loi de 1976, ces animaux sont protégés, mais on a encore un gros travail de sensibilisation à faire. pour expliquer justement l'utilité de ces oiseaux.
Sur les rapaces, sur la nature en général, et sur la nécessité de prendre en compte l'environnement dans les politiques publiques pour avoir un avenir pour l'humanité. Je crois que c'est toujours d'actualité. Moi, ce qui m'interpelle dans cet enregistrement, ce document de 1973, c'est qu'on peut le reprendre aujourd'hui et dire exactement les mêmes choses, sauf qu'on peut rajouter des menaces. Ce monsieur nous parle de la disparition des vergers aujourd'hui. Je pense qu'on parlerait des grands changements dans l'agriculture, la disparition des haies, l'utilisation de produits chimiques pour réguler les micro-mammifères. On parlerait du développement des routes, des collisions avec les voitures, des collisions avec des éoliennes, avec les trains. On parlerait de changement climatique, qui fait que le climat, notamment pour les chouettes de montagne, va changer. Voilà, on pourrait rajouter plein de menaces, peut-être parce qu'on a mieux appris à étudier ces oiseaux la nuit, mais c'est un discours qui, 50 ans plus tard, est d'actualité.
On verra en deuxième partie d'émission, en effet, quelles sont plus précisément ces menaces qui pèsent sur ces animaux et comment, justement, les scientifiques, les chercheurs les étudient la nuit. Mais Simon Potier, ces oiseaux font partie de l'ordre des strigiformes, hein, de strix, dérivé du latin stridere, qui signifie pousser un sifflement rauque, strix qui désigne aussi les vampires. Merci pour la réputation.
Alors, déjà, ça, vous me l'apprenez. Moi, je suis pas au courant de cette signification, mais ouais, une sacrée réputation. Mais depuis toujours, en fait, on l'a entendu dans l'archive, il y a une réputation assez délicate sur les rapaces nocturnes. On peut prendre l'effraie des clochers, qui s'appelle chouette effraie, parce que elle effrayait en partie les gens, notamment parce qu'elle niche dans les greniers, qu'elle a un cri qui est pshhh, qui faisait peur aux personnes, et elle marche une patte devant l'autre. Et du coup, c'était signe du mauvais sort, signe du diable, et c'est la raison qui faisait qu'on les... Une des raisons qui faisait qu'on les accrochait aux portes des granges.
Pour continuer les présentations, Frédéric Giguet, quelles sont les caractéristiques morphologiques générales des strigiformes?
Ces rapaces nocturnes sont adaptés à leur vie la nuit, justement. Donc on l'a entendu dans le documentaire, de gros yeux, une grosse tête, parce qu'il faut gérer toute cette information, capter le peu de lumière qu'il y a la nuit, capter les sons, les amplifier, donc des oreilles, entre guillemets, enfin des trous qui vont capter les sons, et des pavillons recouverts de plumes pour capter ces sons et les diriger vers les orifices auriculaires. Il y a des dans les autres particularités morphologiques, il y a aussi la structure des pattes. Il y a quatre doigts sur les pattes des rapaces nocturnes. En général, chez quasiment tous les oiseaux, il y en a trois vers l'avant, un vers l'arrière. Là, il y a un des trois doigts de l'avant qui est plutôt sur le côté et qui va pouvoir basculer vers l'arrière pour arriver à attraper les campagnols, les souris, les mulots, quand l'oiseau fond sur eux. Et puis bien sûr, un bec crochu pour arriver à dépecer les proies qu'on capture. Comme les rapaces diurnes, en fait, comme beaucoup de prédateurs qui ont besoin de déchiqueter la peau, les écailles de leur proie.
En effet, ces pattes, on dit que ce sont des pattes zygotactiles, Simon Potier.
Alors oui, il y a beaucoup de rapaces nocturnes qui ont des pattes zygodactyles. Il y en a qui sont anisodactyles, donc c'est, comme on disait, les trois doigts vers l'avant, un doigt vers l'arrière. Par exemple, les grands ducs, généralement, sont plus anisodactyles. Pardon. Ça va dépendre, en effet, du type de proie qu'ils vont rechercher.
Mais alors, comment on distingue, je disais dans l'introduction, voilà, le hibou n'est pas le mari de la chouette. Qu'est-ce qui distingue une chouette d'un hibou?
Alors c'est intéressant parce que en France on est alors je connais pas tous les pays, mais on est à peu près les seuls à faire cette distinction entre chouette et hibou, et d'origine en France ça va être la présence d'aigrettes. Donc les aigrettes, c'est ces petites plumes qui se redressent sur la tête, où on a décidé en France d'appeler tous les rapaces nocturnes avec ces aigrettes là des hibous. Il y a des aigrettes plus ou moins grandes, et ceux qui n'ont pas d'aigrettes, on a décidé d'appeler ça les chouettes. Mais si vous allez dans d'autres pays, par exemple, il y a pas de différence, il y a pas de hibou et de chouette, il y a un même nom pour l'ensemble des rapaces nocturnes.
Cédric Marteau, vous nous disiez que justement nous avions en France la chance d'avoir une grande richesse naturelle, 5 espèces de chouettes, 4 espèces de hibou. Quels sont les oiseaux les plus répandus dans notre pays?
Alors bon, déjà je voudrais signaler que malheureusement la population d'oiseaux à l'échelle de l'Europe continue, hein, l'ensemble des populations continue à diminuer, mais je crois qu'on y reviendra. Il y a encore aujourd'hui plus de 20 millions d'oiseaux qui disparaissent à l'échelle de l'Europe par an. 20 millions d'oiseaux, hein, ce qui fait que sur les 40 dernières années, on en a perdu plus de 800 millions. Les oiseaux très fréquents, ils sont dans des groupes très, très différents. On a les petits oiseaux, hein, les petits passereaux qui regroupent la grande communauté comme les rouges-gorges, les pinsons, les chardonnerets. Ce sont des espèces parfois menacées qui sont en très grand nombre. Les rapaces nocturnes sont en nombre beaucoup plus réduit. Hein. L'espèce la plus rare sur les rapaces nocturnes, c'est le hibou des marais. On compte à peu près 40 à 80 couples en France uniquement. 40 à 80 couples, vous voyez, on est sur des choses très très limitées, un nombre de couples très limité. Alors que le plus répandu, c'est la chouette hulotte. Elle est présente sur l'ensemble du territoire national et on a jusqu'à 260, 270 000 couples répartis sur le territoire national.
Frédéric Giguet, je lisais aussi pour préparer cette émission que c'était l'effraie des clochers qui était certainement le rapace nocturne le plus répandu dans le monde.
Parce que l'effraie est... Alors de plus en plus, en les étudiant, on s'aperçoit que ce sont des espèces un peu séparées. Mais le groupe des effraies, alors des clochers, a existé bien avant qu'il y ait des clochers, hein, bien sûr. Mais on l'a appelé comme ça en France. C'est une espèce ou un type d'espèce qu'on va rencontrer aussi bien en Amérique du Sud, du Nord. Il y a une version de chouette effraie qui vit en Australie, en Asie, sur toute l'Europe, en Afrique. Donc oui, c'est voilà, à l'origine sûrement un ou des ancêtres très proches de l'espèce actuelle, parce qu'elles toutes se ressemblent beaucoup, mais qu'on va retrouver à l'échelle des grands continents.
À l'origine, justement, côté évolution, Simon Potier, à quand remonte l'apparition des premiers rapaces nocturnes ?
Alors c'est très difficile de dater, je vais pas avoir les chiffres en tête comme ça. Par contre... On parle souvent de rapaces nocturnes et on pense que l'aspect nocturne des rapaces nocturnes est arrivé après l'aspect diurne, donc ils ont évolué, convergé vers une vie nocturne parce que certainement il y avait moins de compétition la nuit par rapport à d'autres oiseaux de jour, aux autres rapaces diurnes par exemple. Mais on dit souvent que les rapaces nocturnes sont nocturnes. Il y en a beaucoup qui ont une activité nocturne, mais on a également des rapaces nocturnes qui sont principalement diurne à certaines époques de l'année. Si on prend le harfang des neiges, donc la chouette d'Harry Potter, elle vit dans le cercle arctique. Et donc, dans ce cercle-là, la moitié de l'année, il fait jour, si on résume. Et donc, il faut bien qu'elle soit diurne aussi. Et si on prend la chouette effraie, qui est très connue en France, on sait que 30% de son activité cérébrale, c'est le jour. Donc, elles ont, même si évolutivement, elles ont évolué vers une activité nocturne, elles ont une activité diurne également.
En effet, les trois quarts des espèces sont effectivement nocturnes. Par rapport à l'apparition, je voyais que apparemment l'apparition des chouettes, ce serait vers le début de l'ère tertiaire, peu après la disparition des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Alors comment ces oiseaux chassent-ils ? Quel est leur secret pour être de parfaits prédateurs silencieux ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
Direct sur France Culture, nous parlons de rapaces nocturnes, de chouettes, de hibou avec Frédéric Giguet, Simon Potier et Cédric Marteau. On vient d'évoquer leurs caractéristiques physiques, leur grosse tête très mobile, une face ronde chez les strigidés ou en forme de cœur chez les titonidés, un bec court et crochu, de gros yeux ronds, des cerfs très développés et un plumage. On n'a pas encore évoqué ce plumage ensemble, Frédéric Giguet. On a globalement des plumes aux teintes plutôt sombres. Ça aussi, c'est assez caractéristique des oiseaux de nuit.
Je dirais camouflé, en tout cas ça varie. L'idée, comme beaucoup de prédateurs, c'est que les proies ne les repèrent pas. Bon, après, si on chasse surtout la nuit, il faut que les proies aient de sacrés yeux pour arriver à voir tout ça. Et le camouflage, c'est aussi pour pouvoir se cacher la journée, pour pouvoir dormir tranquillement, parce que quand on est une petite chouette prédatrice de rouge-gorge, de pinson et de mésange, et qu'on dort dans un arbre, si les mésanges et les pinsons vous trouvent, ils vont passer beaucoup de temps à vous harceler pour vous embêter, pour vous faire partir loin de chez eux. Et dans ces cas-là, il vaut mieux être camouflé.
Simon Potier ?
Alors, c'est intéressant, l'aspect sombre, on la retrouve très peu chez la chouette effraie, notamment, qui est très blanche sur le plastron. Et il y a une étude du professeur Alexandre Roulin à Lausanne qui étudie énormément ces chouettes effraies-là, qui montre que les chouettes... Donc, il y a des teintes différentes sur les chouettes effraies. Il y en a des plus rousses, il y en a des plus blanches. Et en période de pleine lune, les plus blanches sont plus efficaces pendant la chasse. Donc, il y a vraiment une histoire de camouflage qui est liée à cette coloration des plumes.
tout cas, pas, chez ces animaux-là, pas, y a aucune, aucun d'entre eux ne porte la moindre touche de vert, de jaune ou de rouge, Frédéric Giguet.
Je réfléchis. oui, est-ce que en général, les couleurs un peu voyantes ou flashy ont un rôle dans la sélection sexuelle, dans la séduction? Et s'il faut séduire de jour, on peut danser, chanter et se montrer, avoir des parures extraordinaires. Si on doit séduire la nuit, peut-être qu'il suffit de savoir bien chanter.
Simon Potier.
Je rejoins complètement ce qu'il dit, et puis une notion aussi, c'est que les prédateurs, ils ont besoin de pas se faire voir par leur proie. Et donc il y a très peu d'oiseaux prédateurs, en tout cas des rapaces diurnes et rapaces nocturnes, qui ont des colorations extravagantes.
Ne pas se faire voir par leur proie, en l'occurrence Simon Potier, hein, ces animaux-là ont des yeux et une vue particulièrement fine la nuit.
Alors il y a trois caractéristiques qui font qu'ils ont une meilleure... de meilleures capacités visuelles la nuit, notamment la taille des yeux. La première chose, c'est la taille des yeux. Plus un œil est gros, plus il va laisser rentrer de la lumière. Et quand il fait nuit, il y a peu de lumière. Et du coup, quand il y a peu de lumière, notre œil, nous, il est trop petit pour voir suffisamment bien. L'œil des rapaces nocturnes est très gros. Si on prend le hibou grand-duc, un seul œil est plus gros et plus lourd que tout son cerveau. Donc on a des yeux qui sont vraiment importants et qui se touchent à l'intérieur du crâne. Donc on a des yeux énormes et qui sont d'ailleurs en forme de cloche, ce qui fait que les rapaces nocturnes ne peuvent pas bouger les yeux, à l'inverse de nous. La deuxième chose, c'est la pupille. Notre pupille, dans l'œil, c'est la porte qui va laisser rentrer la lumière. Plus elle va être grosse, plus elle va laisser rentrer la lumière. Et on sait que notre pupille se dilate en fonction de l'intensité lumineuse. Sauf que chez nous, elle se dilate faiblement. Chez les rapaces nocturnes, elle peut se dilater énormément. Et si on prend le grand-duc d'Europe, encore une fois, lorsqu'il fait nuit totalement noire, eh bien, toute la cornée, c'est la pupille. Elle est énorme. Alors qu'en journée, on voit la couleur jaune-orangée de l'œil. Et puis, la dernière chose, dans les yeux, on a des cellules qui permettent de voir. On en a deux types, les cônes et les bâtonnets. Pour faire simple, les cônes, ça permet de voir quand il y a beaucoup de lumière, quand il fait jour. Et les bâtonnets, ça permet de voir quand il y a peu de lumière, quand il fait nuit. Notre œil, à nous, comme les rapaces nocturnes, il est principalement composé de bâtonnets. Donc, des cellules qui servent à voir la nuit. Sauf à un endroit au centre de notre vision. Au centre de notre vision, on n'a que des cônes et on en a plusieurs types, c'est pour ça qu'on voit les couleurs. À l'inverse, les rapaces nocturnes, eux, ils ont au centre de leur vision principalement des bâtonnets. Et donc c'est ça qui fait qu'ils peuvent mieux voir la nuit que nous.
Alors par rapport au poids des yeux que vous évoquez, hein, je lisais hein, que certains peuvent peser jusqu'à 3% du poids total de l'animal. Proportionnellement, si nous avons des yeux aussi gros que les leurs, on aurait des yeux de la taille d'une orange, pour se représenter ce que ça pèse. Et donc, vous nous expliquez en effet que les globes ne peuvent pas rouler, et ça c'est pour ça, ça explique pourquoi ces animaux peuvent tourner la tête à 270 degrés, c'est pour compenser...
Alors on parle souvent des rapaces nocturnes qui tournent la tête à 270 degrés, ce qui est vrai, mais en fait tous les oiseaux en sont capables. En fait les oiseaux, nous en tant que mammifères, la plupart des mammifères, 99% des mammifères ont 7 vertèbres cervicales. Et il y a des oiseaux qui ont beaucoup plus de vertèbres cervicales, notamment les rapaces nocturnes. Ce qui leur permet de bouger beaucoup plus leur tête. Et les rapaces nocturnes, ils vont beaucoup le faire parce qu'ils ont les yeux plus implantés de face. Et en plus, avec leur disque facial, dont on parlera tout à l'heure, ils ont un champ binoculaire qui est important, mais un champ monoculaire, donc une vision autour de leur tête qui est très restreinte. S'ils veulent pouvoir voir un peu partout, il faut qu'ils bougent la tête. Les oiseaux diurnes, ils peuvent bouger la tête comme les rapaces nocturnes, mais comme ils ont une vision beaucoup plus périphérique, ils ont moins besoin de le faire.
C'est ça, cette vision binoculaire. Les yeux sont pas situés sur les côtés de la tête, mais sur le devant, comme la plupart des oiseaux.
Alors, ils sont sur le côté, mais moins sur le côté. Ils sont pas devant, ils sont pas de face comme nous. Ils sont un peu sur le côté, mais beaucoup moins sur le côté que les autres oiseaux.
On a pensé pendant longtemps que les rapaces nocturnes avaient le même champ de vision, alors que non, ça dépend leur mode d'alimentation.
Alors ça, oui, c'est une étude qu'on a faite récemment, qui a été publiée l'année dernière, où avant notre étude, il y avait une seule étude qui avait étudié le champ de vision des chouettes ulottes et qui montrait qu'il y avait un grand champ de vision binoculaire, ce qui est tout à fait logique. Et on avait supposé que tous les rapaces nocturnes avaient ce champ de vision-là. Et en étudiant 22 espèces de rapaces nocturnes, on a montré que, en effet, le champ de vision, il est à peu près conservé chez les rapaces nocturnes, mais on a des subtiles différences qui apparaissent, notamment les titanidés, qui sont complètement différents des autres, ce qui évolutivement est intéressant, puisque c'est une branche complètement à part. Les titanidés, c'est les chouettes effraies. Et chez les strigidés, eh bien là, on voyait que ceux qui mangent des insectes ont une vision beaucoup plus verticale, qui va beaucoup plus haut que ceux qui mangent des vertébrés. Et la supposition, c'est que ceux qui mangent des insectes se servent beaucoup plus de leur vision, alors que ceux qui mangent des vertébrés se servent beaucoup plus de l'audition pour chasser.
Ouais, côté couleur des yeux, il existe aussi une corrélation entre la teinte des yeux et le côté nocturne de l'oiseau. En gros, plus c'est foncé, plus le rapace a tendance à être nocturne.
Oui, alors ça, c'est ce qui a été montré par une autre équipe de chercheurs, où en effet, il y a un lien, donc une corrélation, c'est pas de cause à effet, ça veut pas dire qu'ils ont les yeux clairs parce qu'ils voient mieux de jour, c'est pas ça. Mais en tout cas, les espèces qui sont plus actives le jour, comme le harfang des neiges, le hibou grand-duc ou la chouette chevêche en France, vont avoir une teinte beaucoup plus claire que les espèces qui sont beaucoup plus actives la nuit, pardon, comme la chouette hulotte ou la chouette effraie.
Frédéric Giguet, à l'inverse, la chouette lapone est capable, elle, de détecter des campagnols sous la neige, car elle, son mode de chasse, c'est plutôt via l'ouïe plutôt que la vision.
Même la journée. Et c'est comme ça qu'on a des images fabuleuses de ces chouettes lapones dans le Grand Nord qui plongent dans la neige et qui ressortent avec un campagnol.
Comme les renards en fait.
Exactement, comme les renards qui sautent chez nous pour retomber sur une proie. Je pense qu'on a vu des rapaces nocturnes dans des films, dans des vidéos. On a parlé tout à l'heure de Harry Potter. On voit bien, on visualise bien ces rapaces posés sur un perchoir, mais qui bougent la tête à gauche, à droite. On a l'impression qu'ils cherchent quelque chose. Ils bougent. En fait, non. Ils bougent leurs oreilles, qui leur permet aussi de mieux localiser ce qu'ils entendent de manière très précise. Et ce qui veut dire qu'une chouette lapone. Alors déjà, je crois Simon en parlera peut-être, mais je crois que déjà les deux disques, les deux pavillons qui conduisent les sons vers les oreilles ne sont pas symétriques de chaque côté de la tête, sont décalés, ce qui permet aussi de mieux localiser un son. Et ensuite, ces mouvements de tête sur le côté, de chaque côté, permettent aussi de mieux localiser le son et donc de savoir très précisément, à un centimètre près, où se trouve la proie qui est à capturer.
C'est ça, l'asymétrie des oreilles, qui n'est pas le cas de tous les rapaces nocturnes, Simon Potier, ça leur permet de trianguler le son.
Alors exactement, déjà, il y a plusieurs composantes pour la localisation du son. Frédéric en parlait, il y a le disque facial ou le masque facial, qui est en fait, donc il va en avoir deux, qui sont deux paraboles, qui vont fonctionner comme les antennes qu'on a sur les maisons, qui vont centraliser le son. Et ça va permettre déjà d'entendre bien mieux. Typiquement, nous, on a deux paraboles aussi, qui sont nos oreilles externes, et on localise bien mieux le son que la plupart de tous les oiseaux qui n'ont pas ces oreilles externes, ces conduits auditifs externes. Et ensuite, la deuxième chose, c'est les conduits auditifs. Et on a une asymétrie. Très peu d'espèces ont été étudiées, mais sur sept espèces, il y en avait trois qui avaient une asymétrie, quatre qui n'avaient pas d'asymétrie. Et notamment la chouette lapone, comme parlait Frédéric, c'est la chouette qui a le masque facial le plus important et l'asymétrie des conduits auditifs le plus importante. Il y a une oreille qui va écouter en haut et une oreille qui va écouter en bas. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à trianguler pour localiser la proie très précisément.
Pour localiser la proie, les rapaces nocturnes aussi sont, les chouettes, les hiboux, sont aussi très connus pour le vol silencieux avec leur plumage. Alors, pour mémoire, lorsqu'on entend un pigeon voler, ça fait ça. Là, ça fait un peu de bruit. Quand une chouette vole, ça fait ça. Voilà, du silence. Comment ça s'explique ça? Qu'il n'y ait aucun bruit, aucun frottement. Quelles sont les caractéristiques anatomiques pour créer un vol parfaitement silencieux, Simon Potier?
Alors, il y a plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, les oiseaux diurnes ont souvent, je vais comparer avec les faucons, qui sont des rapaces diurnes extrêmement rapides, ils ont des plumes extrêmement rigides, ce qui va leur permettre de résister à des frottements avec l'air très importants, notamment quand il y a du vent ou quand ils font des piquets pour le faucon pèlerin, quelquefois à 400 km/h. Donc, ils ont besoin de ces plumes rigides pour notamment ressourcer. Les rapaces nocturnes, eux, ont des plumes très duveteuses, très souples, ce qui fait que, déjà, le frottement avec l'air va être bien plus amoindri. Et puis la deuxième chose qui est très intéressante, c'est que sur la tranche externe des plumes externes des ailes, il y a comme un peigne fin, comme un peigne avec lequel vous vous coifferez. Et ce petit peigne-là, il fait en sorte de réduire les frottements avec l'air. C'est comme si vous étiez dans une piscine, que vous tapiez la main sur l'eau, ça va faire énormément de bruit. Et si vous écartez les doigts au moment de taper, vous allez avoir beaucoup moins de mouvement, beaucoup moins de bruit. Et bien, les rapaces nocturnes, ils fonctionnent exactement comme ça.
On a aussi la grande taille des ailes hein, qui fait que les strigiformes sont plus longues que d'autres rapaces, Frédéric Giguet, mais du coup ils doivent moins battre les ailes, ce qui ajoute à leur discrétion.
Les ailes sont plus arrondies. En fait, c'est un peu le résultat d'une course à l'armement avec les campagnols et les mulots. Chacun, le mulot est à l'affût, il écoute. Il ne faut pas que la chouette se fasse entendre si elle veut pouvoir le capturer. Il faut qu'elle puisse le repérer, éventuellement voler sur place au-dessus pour mieux trianguler. Et il faut qu'elle fasse ça en silence. Donc, dans l'évolution, la structure des plumes qui a eu du succès est celle qui a permis à ces oiseaux de chasser correctement. Et chez les mulots, ceux qui ont survécu sont sans doute ceux qui arrivent quand même à détecter suffisamment les chouettes, ou de toute façon il faut qu'il y ait des mulots pour qu'il y ait des chouettes, donc ils n'ont pas tous disparu.
Est-ce que certains rapaces diurnes ont cette même structure d'ailes et de plumes, Frédéric Giguet ou Simon Potier? Je voulais pas coller une colle.
Ouais, je ne sais pas. Je pense qu'il y a tout un gradient, parce qu'il y a des espèces qui chassent. Simon parlait tout à l'heure du faucon pèlerin, qui a besoin d'avoir des plumes très rigides, parce que quand on fait un piqué à 400 km/h, à un moment, il faut freiner. Et si on freine en ouvrant les ailes et qu'on a des plumes fragiles, elles vont toutes se casser et on va pas freiner. Il y a d'autres rapaces qui volent en faisant du vol sur place, des planées, des choses comme ça, mais qui n'ont pas forcément besoin de le faire en silence. Et il y a des rapaces dits nocturnes, on va dire des chouettes ou des hiboux, qui chassent deux jours, qui n'ont pas forcément besoin d'être très silencieux. Donc l'évolution a certainement créé tout un gradient de plumes.
Simon Potier.
Oui, alors justement, Frédéric parlait de la course à l'armement et donc de l'aspect de la sélection qui a sélectionné ces plumes silencieuses parce que la nuit, comme les proies ne peuvent pas anticiper par vision leurs prédateurs, ils écoutent beaucoup plus. De jour, à ma connaissance, il n'y a pas de rapaces diurnes qui ont des plumes aussi adaptées à l'absence de bruit que les rapaces nocturnes. Après, on a des rapaces qui ont une stratégie de recherche un peu similaire aux rapaces nocturnes. Je pense notamment à certains busards qui vont utiliser beaucoup l'ouïe pour détecter les mulots dans les prairies. Là, on ne peut pas les voir s'il y a trop de végétation, trop d'herbe. On ne peut pas les voir. Et on sait que les busards, ils ont un vol typique qui va se rapprocher des rapaces nocturnes pour localiser leur proie.
Puis on a aussi des expériences menées en laboratoire qui ont montré que l'effet des clochers peut capturer une proie dans l'obscurité absolue, c'est-à-dire en se fiant uniquement au son perçu. Par rapport justement aux stratégies de recherche, on évoquait la physiologie des plumes de ces animaux-là. Simon Potier, c'est intéressant parce qu'on voit que ça inspire aussi certains chercheurs sur le biomimétisme justement de ces plumes particulièrement anti-bruit.
Alors oui, on parle de plus en plus de biomimétisme. En fait, l'évolution a sélectionné des espèces depuis des milliers et des milliers d'années. Et du coup, ces espèces sont énormément adaptées à leurs caractéristiques, à leurs besoins. Et maintenant, les roboticiens s'inspirent beaucoup des espèces pour créer des robots. Je pense notamment au cou des vautours, où il y a une étude faite par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui s'est inspirée du cou des vautours pour développer des nouveaux bras pour les robots qui sont extrêmement puissants, parce que le cou des vautours est extrêmement puissant. Pour les rapaces nocturnes, ce petit peigne qu'on retrouve sur la tranche externe des plumes, eh bien, de plus en plus, on le développe sur les éoliennes, puisque les gens se plaignaient du bruit des éoliennes, ceux qui habitaient au bas des éoliennes, et quand on met ce peigne-là, on a beaucoup moins de bruit.
Puis on a aussi les Falcon 9 hein, qui sont appelés comme ça parce que ils ont une forme de faucon et c'est le meilleur aérodynamisme que l'on connaît. Exactement. Et puis pour le côté très silencieux aussi de ces animaux, on peut ajouter les pattes hein, qui sont emplumées jusqu'aux doigts, les plumes qui font office d'écran acoustique et qui absorbent les sifflements de l'air produit sur la peau nue. Alors quelles sont les menaces qui pèsent sur les rapaces nocturnes? Quelles sont les mesures de protection? Restez avec nous.
Down. Shoot him, shoot him. Yeah. over time. So long. Don't mean maybe. So long.
Tony Allen, Night Owl, en direct sur France Culture, car nous parlons de hibou et de sa cousine la chouette. Nous parlons de rapace nocturne, en compagnie de nos trois invités du jour. Frédéric Giguet, ornithologue, professeur en biologie de la conservation au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Simon Potier, chercheur en écologie sensorielle. Et Cédric Marteau, directeur général de la Ligue de protection des oiseaux. On vient de parler de la science derrière le vol silencieux des chouettes, de leurs plumes qui leur permettent d'être extrêmement furtifs. Parlons à présent des mesures de protection et de suivi de ces oiseaux. Cédric Marteau, on a évoqué en première partie d'émission que les rapaces sont à l'heure actuelle parmi les espèces d'oiseaux les plus menacées. Qu'en est-il pour les rapaces nocturnes? Quelles sont les espèces particulièrement menacées à l'heure actuelle?
Écoutez, les rapaces sont des espèces, les rapaces nocturnes. La difficulté, la première, est certainement de les détecter. On l'a bien compris, ils sont extrêmement distraits. Et donc, la première opération qui est menée, c'est évidemment un suivi permettant, par leur chant, d'essayer de voir leur état de population, de comprendre combien sont-ils et comment évoluent-ils. Et là, on vient à la LPO, avec plus de 1200 participants, de mener une enquête sur l'ensemble du territoire national qui permet nous d'avoir une première estimation de ces populations et de voir que la chouette effraie, par exemple, sur ces rapaces nocturnes, est celle qui probablement diminue le plus. Elle diminue parce qu'elle a une perte d'habitat qui est forte. Hein. Elle niche dans des granges, elle niche dans des églises, elle niche dans du bâti très souvent, et ce bâti est de moins en moins accessible. Elle est victime de collisions routières. C'est aussi un gros problème pour les rapaces nocturnes, mais principalement pour la chouette effraie, on a des problèmes de collisions. Et puis, pour certaines de ces espèces, on a une forte diminution de nourriture liée à l'agriculture intensive, hein, à la mise en place, on le sait, d'intrants chimiques, que ce soit des pesticides, des insecticides, qui vont modifier la disponibilité des proies et donc impacter les populations. Et donc, évidemment, il y a une action qui doit être menée sur l'ensemble de ces menaces pour permettre de maintenir les populations que l'on commence seulement à dénombrer avec précision.
Frédéric Giguet, en effet, on évoquait quelques menaces qui pesaient sur ces oiseaux. En effet, puis qu'on rappelle à présent, la disparition des habitats. Et là, à l'instant, voilà cette question des pesticides et insecticides qui constituent aussi un danger bien réel pour ces espèces.
Comme pour tous les oiseaux qui vivent en milieu agricole, et après les choses s'organisent un peu en cascade. Il faut imaginer que la taille des parcelles a beaucoup évolué. Les parcelles aujourd'hui agricoles sont très grandes, les haies ont été arrachées, beaucoup de prairies ont été retournées pour faire de grandes cultures. Et dans ce paysage-là, par exemple, les habitats, on va dire, de sol un peu permanent, avec un couvert herbacé, qui vont accueillir des populations d'insectes et de campagnols un peu tout au long de l'année, les terriers des campagnols n'étant pas détruits tous les 6 mois. Ça va être, par exemple, les bordures d'autoroutes, les bordures de routes, où on a des populations de micro-mammifères qui se maintiennent, mais où on a aussi beaucoup de voitures qui passent. D'où la dégradation des habitats agricoles pour ces espèces qui entraîne un report vers des habitats de substitution comme les bords des routes qui vont entraîner de la mortalité par collision. Une des conséquences aussi de lutte contre le réchauffement climatique, c'est la rénovation d'énormément de bâtiments, de toits, de combles pour boucher les caches moineaux, pour boucher les trous qui permettent d'entrer dans les greniers mais qui permettent à la chaleur de sortir. Et ça, c'est aussi un vrai problème pour certains rapaces nocturnes qui nichaient dans les bâtiments.
Cédric Marteau, autre menace, est-ce que la pollution lumineuse, hein, qui est de plus en plus importante, joue-t-elle un rôle vis-à-vis justement de ces rapaces nocturnes ?
Alors la pollution lumineuse est une des menaces qui est recensée par l'IPBES. Vous savez qu'on a la chance d'avoir au niveau mondial ce GIEC de la biodiversité et qui établit des rapports très réguliers. Le dernier est sorti la semaine dernière et il met en évidence une fois de plus les différentes menaces qui pèsent sur le vivant. Et d'une manière générale, la pollution lumineuse impacte très fortement les oiseaux, notamment migrateurs. Ils perturbent dans la répartition des proies, mais aussi dans leur développement, leur phénologie. Et donc, effectivement, c'est une menace sur laquelle il faut agir. Il y a des travaux en cours de plus en plus avec les développeurs, les énergéticiens, pour tenter de la réduire. Et on espère, nous, à l'échelle de la LPO, de mener pendant la route de migration, on a un projet comme ça de verrouiller, de fermer cette pollution lumineuse en éteignant les villes. Un grand projet qui devrait démarrer dans les années à venir.
Simon Poitier, vous souhaitiez réagir?
Oui, sur la pollution lumineuse, c'est quelque chose qui est très important. Il faut faire très attention à pas considérer que notre environnement est l'environnement de tous les animaux. C'est la définition du concept d'Umwelt qui parle d'environnement sensoriel. C'est qu'on vit tous au même endroit, au même moment. On vit tous dans des environnements différents parce qu'on a des capacités sensorielles qui sont différentes. Et il y a une étude très intéressante en 2019 qui a montré que les rapaces nocturnes pouvaient voir les ultraviolets seulement la nuit. Et donc, il va falloir faire très attention au type de lumière qu'on va utiliser la nuit, puisque potentiellement, s'il y a des ultraviolets, ça peut les atturer ou, au contraire, les effaroucher à très longue distance.
Sur toute cette liste de menaces, on peut aussi ajouter l'impact de la déforestation. À l'échelle mondiale, on a une bonne vingtaine d'espèces qui sont menacées. Les plus menacées, c'est les frais de Madagascar, le hibou sococo du Kenya et la chouette des forêts du centre de l'Inde. Côté bonne nouvelle, Cédric Marteau, on a aussi des strigiformes qui se portent bien, comme c'est le cas du Grand-Duc.
Alors oui, effectivement, il y a des bonnes nouvelles et on le voit de plus en plus. Quand on donne un petit coup de pouce à la nature, on le voit sur les échassiers, sur les oiseaux d'eau d'une manière générale, les populations se redynamisent. C'est vrai aussi pour le Grand-Duc d'Europe en France particulièrement va plutôt bien. On estime entre 2000 et 4000 couples à l'échelle du territoire national et ça, c'est plutôt une belle progression. Vous avez parlé de l'effraie malgache, je souligne qu'on abrite cette espèce en France. Alors évidemment, pas dans notre France hexagonale, mais nous avons un chapelet d'îles coincé dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et l'Afrique. Et on a une petite île qui s'appelle Europa et qui héberge une petite population d'effraies malgaches. Et donc on a, et là encore une fois, cette chance et en même temps cette responsabilité de préservation de ce patrimoine. Il y a un projet de réserve naturelle nationale sur l'île d'Europa et on espère que ce projet pourra se faire pour évidemment venir à essayer de mettre en place des mesures de protection de cette espèce très menacée. Vous l'avez dit, c'est une des espèces les plus menacées de rapaces nocturnes à l'échelle mondiale.
Frédéric Giguet.
Oui, non, il y a sur ces petites îles, il y a de grandes colonies d'oiseaux marins qui se portent pas forcément bien et des questions qui se posent. Un programme qui vient de démarrer là sur l'étude aussi d'un corbeau africain qui alors est arrivé naturellement ou a été introduit. Pour les chouettes, pour les effraies, on se pose les mêmes questions. Et donc une étude qui va essayer de comprendre comment ces espèces utilisent l'espace. Est-ce qu'il va falloir protéger les oiseaux marins de ces prédateurs introduits ou natifs, et voilà, comprendre un peu comment fonctionne cet écosystème aviaire pour mieux le protéger.
Vous souhaitiez également réagir, Simon Poitier.
Sur la vague des programmes qui existent et sur les bonnes nouvelles qui peuvent exister, en effet, il y a des efforts énormes qui sont portés in situ, donc c'est-à-dire à l'état naturel, notamment par la LPO en France. Et tout ça, ça va fonctionner parallèlement à des programmes ex situ, on va dire, donc des programmes de reproduction qui sont en captivité. Je pense notamment à la chouette de l'Oural qui avait disparu en forêt de Bavière en Allemagne, il n'y en avait plus du tout. Et les parcs zoologiques français et les voleries françaises, donc les parcs qui présentent des oiseaux, sont les premiers acteurs dans la conservation de cette espèce. Depuis 2020, on relâche ces petites chouettes de l'Oural en forêt de Bavière, et cette année, on sait que notre programme fonctionne, puisqu'on a eu les premières reproductions à l'état naturel. Donc c'est ça fait partie des bonnes nouvelles sur les rapaces nocturnes.
Alors concernant ces programmes de suivi, hein, on l'a dit, les rapaces nocturnes sont des espèces plutôt sédentaires, très discrètes, on l'a vu, elles ne font aucun bruit quand ils volent, et donc très difficile de les observer et de suivre leur processus de reproduction. Mais pour le reportage du jour, nous sommes partis sur leurs traces. La journaliste Noémie Eliazor est allée arpenter les allées du cimetière du Père-Lachaise à la recherche d'un couple de chouettes hulottes. Bonjour Noémie.
Bonjour Natacha. On n'avait pas eu d'indice de la nidification de la chouette hulotte dans Paris intramuros depuis 2012. Pourtant, des traces de sa présence ont été observées dans le cimetière du Père-Lachaise, qui est le plus grand espace vert de Paris avec ses 43 hectares. Hugo de Vergès, bénévole à la Ligue pour la protection des oiseaux, nous décrit le protocole de suivi de la nidification d'un couple de chouettes hulottes qui a élu domicile dans cet endroit assez fréquenté de la capitale.
On a entrepris un protocole de suivi de la chouette hulotte. Donc ce protocole, il se base sur des points d'écoute, c'est-à-dire qu'on va, après le coucher de soleil, venir dans le cimetière du Père-Lachaise et aller écouter ce qu'on appelle une écoute passive, c'est émettre des sons, donc des sons de la chouette hulotte pendant une minute, et après pendant 9 minutes, écouter si un individu ou non, ou plusieurs potentiellement, répond en fait à cet enregistrement. Et on va faire ça 10 fois dans 10 points d'écoute différents, parsemés tout autour du Père-Lachaise, donc dans le Père-Lachaise. Et donc on fait ça 3 fois. Donc le premier, on l'a fait en janvier. On a eu un contact, notamment au tout début donc le premier point d'écoute, et aussi au 8e. Puis après, on l'a refait en mars. Donc, à savoir que mars, c'est vraiment le moment où les chouettes hulottes sont cantonnées et vont vraiment commencer à nicher. En janvier, c'est là où ils commencent un petit peu à chanter, à essayer de trouver un endroit pour se reproduire. Et donc en mars, on est revenu. Et en fait, en mars, ce qui était intéressant, c'est que sur les 10 points d'écoute, il y en a eu seulement 2 où on a eu un contact avec la chouette hulotte, avec les chouettes hulottes. Et c'était ici, donc à ce moment, dans le point d'écoute numéro 8. Et ça nous a donné vraiment beaucoup d'indices sur, on sait qu'ils sont très cantonnés à cet espace-là. Et à partir de là, lorsqu'on a défini le périmètre, on s'est dit, maintenant, il va falloir faire des observations, alors cette fois-ci diurnes, donc la journée, pour essayer de trouver le nid. Parce qu'effectivement, ce n'est pas très facile de trouver le nid, c'est assez compliqué, notamment quand les arbres ont des feuilles. Et donc, on a passé des heures et des heures et des heures à chercher le nid, et on l'a trouvé donc ici. Et on était très contents, effectivement. C'est celui-ci là. Mmh. Là, il y a un gros trou.
Mmh.
Il y a un autre trou en haut.
Ah, il y en a deux.
Il y en a 3. Mmh. Il y a celui-ci, un autre trou en haut. Mmh. Et si je vais vous montrer, vous pouvez peut-être descendre. Et en fait, si vous regardez, vous avez mal à vos cervicales, il y a encore un autre trou qui est juste là sur la face droite. Il y a un trou en sorte de triangle. Ça, c'est le troisième trou. D'accord. Alors, en fait, c'est une grande cavité où il y a 3 entrées et 3 sorties, donc. Et en fait, parfois, on voit un jeune à gauche, un jeune à droite. C'est assez joli. Et on a pu donc suivre au fur et à mesure, des jours et des semaines, l'émancipation des jeunes. Sachant que quand on a trouvé le nid, on va dire que les jeunes étaient à quelques jours de l'envol, donc on a eu vraiment de la chance de le trouver à ce moment-là. Et comme je l'avais dit auparavant, donc il y a un jeune qui est malheureusement mort, qui a été prédaté par un renard, et un autre jeune qui a pris son envol et on pense qu'il s'est émancipé, donc qui est devenu adulte, en tout cas on l'espère, parce qu'à un moment on n'a plus trace du jeune et on voyait que les adultes, donc ça suppose que le jeune a pris son envol et s'est émancipé. Donc là, on est au deuxième reposoir. Et ce qui est assez intéressant aussi lorsqu'on va essayer de savoir s'il y a une chouette hulotte ou pas, la première chose à faire, c'est de scanner le tronc pour savoir si l'espèce, en tout cas l'individu, est présente. Donc ça, c'est la première chose. Donc si on la voit, on a gagné. Mais si elle n'est pas là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de regarder des indices, comme des pelotes de rejection ou des fientes, qui peuvent être au sol, mais aussi le long du tronc. Et ça, c'est encore un indice de présence. Alors, ça veut sûrement dire que l'individu, en tout cas l'espèce, était là à un moment. Peut-être pas dire qu'elle était là aujourd'hui ou hier, mais en tout cas, elle est passée là, elle a passé du temps. Donc en fait, avoir ces petits indices et regarder ça lorsqu'on fait ces petites observations, et notamment lorsqu'on faisait le protocole, ça nous permettait de savoir, voilà, elle a utilisé ce reposoir, elle ne l'a pas utilisé, on a trouvé tant de pots de rejection, donc ça montre aussi que l'espèce utilise beaucoup cet espace-là, ou s'il n'y a rien, ça veut dire qu'elle n'utilise pas. Donc là, on va regarder. Mais... Encore une fois. Ouais, on scanne le tronc. Ouais, normalement, elle a jumelles. Hein, j'ai mes jumelles là, mais c'est quand même plus simple. Là, on scanne et on voit rien du tout. Non. Donc si on voit rien... C'est d'aller regarder au pied de l'arbre. Là, vous voyez ici, il y a un petit peu de fiente. Il y a un petit peu de fiente ici. Pas beaucoup. Ça m'a l'air. Ouais, c'est assez frais. Donc, ça a peut-être été utilisé dans les derniers jours. Là, je regarde par terre s'il n'y a pas des pelotes de réjection. J'en vois pas. Là, je vois pas de pelotes. Avec les feuilles d'automne, c'est pas facile parce que ça se confond énormément. Les pelotes de réjection, c'est ce que font les chats par exemple, quand ils vont avec leurs poils, quand ils vont rejeter des poils. Les rapaces nocturnes, ils vont faire des pelotes de réjection à peu près une à deux fois par jour. Et en fait, ils vont rejeter tout ce qui n'est pas nécessaire. En tout cas, tout ce qui n'est pas digéré par leur organisme, donc des os, des poils, des plumes. Et en fait, ça fait des petits amas, des petites pelotes qu'on peut en fait utiliser, disséquer et reprendre les ossements pour identifier en fait les proies de la chouette-culotte. Donc ça, on n'a pas encore fait. C'est potentiellement quelque chose qu'on aimerait faire si on trouve assez de pelotes. Et c'est beaucoup utilisé pour connaître le régime alimentaire des rapaces nocturnes. C'est l'analyse des pelotes de réjection et notamment l'identification des proies dans ces pelotes de réjection.
Merci Noémie Eliazor pour ce reportage. Cédric Marteau, une réaction à ce qu'on vient d'écouter ? Voilà où sur les enjeux des campagnes de suivi.
Oui, je pense que c'est vraiment un bonheur d'entendre ce partage parce que on a aujourd'hui à peu près 50 000 personnes réparties sur le territoire national, de niveaux très différents, qui participent au suivi d'une manière générale des oiseaux en France. Et lors du dernier recensement des rapaces nocturnes, on a eu 1200 personnes qui se sont mobilisées. Hein, c'est plus de 5000 heures qui sont passées de nuit, donc évidemment, pour enregistrer, détecter le moindre chant, le moindre signal de ces rapaces permettant de les dénombrer. Et donc, tous les deux ans, on organisera la prochaine session, c'est en mars 2025, ce qu'on appelle la nuit de la chouette, c'est-à-dire qu'on invite tous les citoyens, quelle que soit la région, à venir accompagner. On a entendu ici un collègue qui recherchait dans un site donné, le Père Lachaise, un nid de chouette-ulotte. Et ben, on invite tous les citoyens à venir pendant la nuit de la chouette partager ces ambiances nocturnes, ces chants, ces cris, et évidemment de former pour ensuite espérer que ces personnes puissent s'investir dans les différents suivis.
La nuit de la chouette depuis 1996, Cédric Marteau, c'est un peu une fête de la science spéciale chouette.
Ben exactement, c'est un peu la fête de la nature, fête de la science, et vraiment, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus nos concitoyens impliqués dans ces programmes dits de science participative. Alors, il n'y a pas toujours besoin d'avoir un niveau expert. On a des suivis très différents. En janvier, on aura le comptage des oiseaux des jardins. Donc là, on va plutôt compter des choses très simples, les merles, les rouges-gorges, etc. Et ça, c'est tous les ans. La nuit de la chouette, tous les deux ans, et l'objectif, c'est de partager un moment de découverte de la nature dans cette ambiance nocturne. Et évidemment, on voit par ces programmes de sciences participatives des données qui sont de plus en plus fines, analysées par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Tout ça, évidemment, est très valorisé, très contrôlé. On fait pas n'importe quoi en sciences participatives. Et ça permet de développer ensuite des programmes de protection, des programmes de conservation.
Cédric Marteau, lors de ces programmes de sciences participatives, vous apprenez par exemple aux participants à reconnaître le son des espèces comme celui-ci. Si on doit faire une initiation rapide à nos auditeurs à la reconnaissance des espèces.
Exactement, hein, c'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire que il y a deux partages. Hein, il y a le partage du chant, mais aussi l'explication de quelle espèce, comment elle s'alimente, comment elle se déplace. Est-ce que ce sont des espèces qui ont des mouvements de population, c'est-à-dire est-ce que ce sont des espèces qui migrent. C'est l'ensemble de ces éléments qui sont apportés. On a aussi pendant les suivis, on va passer le chant des différentes espèces. Vous avez passé là un tri et un chant qui permet de stimuler les individus pour mieux les dénombrer. Donc on est vraiment dans ce partage d'informations.
C'était le miaulement d'une chouette-ulotte, en effet. Quant à vous, Frédéric Giguet, vous travaillez sur une seule espèce de strigiforme, le hibou des marais. Vous cherchez à comprendre comment les hiboux font leur migration.
Ce sont des oiseaux qu'on suit dans le cadre de programmes d'acquisition de connaissances sur les oiseaux migrateurs liés au développement de l'éolien en mer dans les eaux françaises. Et donc nous avons différentes espèces que l'on capture depuis, je vais dire, la petite fauvette ou l'hirondelle jusqu'au flamant rose. Et dans ce panel d'espèces, on a étudié en fait deux hiboux. Le hibou des marais, effectivement, mais pas les 40 ou 80 couples qui nichent en France, mais des oiseaux migrateurs qui viennent passer l'hiver chez nous, qu'on capture en ce moment. On pose des petites balises GPS qui vont enregistrer tout leur trajet, leur déplacement, et qui vont partir en migration au printemps, traverser des mers, la mer du Nord, la Manche. Certains vont rejoindre l'Islande, d'autres l'Écosse, d'autres la Russie. Et on suit comme ça leur déplacement pour savoir à quel moment ils partent en mer, à quelle altitude ils traversent les mers, est-ce qu'ils seront à la hauteur de pales d'éoliennes. On a aussi travaillé en zone méditerranéenne sur le petit duc, Scops, le hibou petit duc, où là, ils sont trop petits pour qu'on leur pose des balises GPS, donc on a posé des enregistreurs de lumière avec des baromètres aussi intégrés qui nous ont permis de savoir à quelle altitude ils traversent les barrières géographiques et pour s'apercevoir, par exemple, qu'à la migration de retour, donc c'est un oiseau qui va hiverner au sud du Sahara, un grand migrateur, et lors de sa migration de retour, il a fait quasiment la traversée du Sahara et probablement de la Méditerranée en un seul vol, en se déplaçant à plus de 4000 mètres d'altitude. Imaginez-vous, vous êtes dans un avion, vous rentrez de vacances, vous êtes en train de descendre de tout là-haut à 10 000 mètres, et à 4 000 mètres, vous regardez par le hublot et vous voyez un hibou qui passe en vol. Ce serait assez extraordinaire.
Quand on pense au réchauffement climatique en cours, le Sahara va être de plus en plus long, large et chaud, donc ça va être probablement de plus en plus compliqué pour beaucoup d'oiseaux migrateurs, dont les petits ducs.
Exactement, notamment ceux qui volent bas et qui ne montent pas assez haut pour éviter cette surchauffe.
Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales. Mais mille merci Cédric Marteau, merci Simon Potier, merci Frédéric Giguet de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on passe à un tout autre sujet avec la chronique Avec Science, une chronique signée Alexandre Morales.
Que nous apprennent les plus vieux fossiles d'humains modernes sur le parcours d'Homo sapiens ? C'est un fait scientifique établi, l'homme moderne, Homo sapiens, est apparu en Afrique. Certains individus ont ensuite quitté le continent au cours de plusieurs vagues de migration et les chercheurs tentent de dater ces déplacements avec les quelques vestiges dont ils disposent. On datait jusqu'à présent la vague de peuplement à l'origine des Européens et des Asiatiques actuels à environ 50 ou 60 000 ans, une vague au cours de laquelle, en arrivant au Proche-Orient, les futurs Européens et Asiatiques se seraient hybridés avec l'homme de Néandertal. C'est la raison pour laquelle on retrouve aujourd'hui 2 à 3% d'ADN néandertalien chez toutes les personnes originaires d'Eurasie. Une équipe internationale d'anthropologues et de généticiens est parvenue à séquencer les plus anciens génomes d'hommes modernes connus à ce jour. Le résultat, publié dans la revue Nature, apporte un éclairage et une précision nouvelle sur la sortie d'Afrique. Hélène Rougier est paléo-anthropologue, professeure d'anthropologie à la California State University de Northridge aux États-Unis. Elle a participé à la découverte des restes humains analysés dans cette étude.
À Zlatikoun, en Tchéquie, dans les années 50, il y avait des restes humains qui avaient été trouvés, et notamment un crâne qui est vraiment bien conservé. Et il y a quelques années, en 2021, en fait, il y a eu une analyse génétique de ce fossile qui a montré que c'était justement un Homo sapiens très ancien. Et grâce à l'ADN, ils ont réussi à proposer qu'il pourrait avoir environ 45 000 ans. Et dans l'article que nous publions là maintenant, c'est une analyse encore plus poussée de l'ADN de ce fossile qui a été faite et qui a été rapprochée de ce que l'on a sur d'autres fossiles, mais qui, eux, viennent d'Allemagne, d'une grotte qui se trouve à Ranis. Et ensuite, ces deux lots de pièces ont été analysés pour leur ADN et on a pu vérifier à ce moment-là qu'elles appartenaient à Homo sapiens. Et on a aussi pu les dater directement. Et donc, on a des dates autour de 45 000 ans, entre 42 et 49 000 ans.
À Ranis en particulier, l'équipe a mis au jour 13 restes humains issus de 6 individus différents, parmi lesquels on compte notamment une mère et sa fille. Avec leur ADN, les scientifiques ont mis en évidence des caractères morphologiques chez ces humains. Et sans surprise, puisqu'ils étaient tout juste sortis d'Afrique, ils avaient certainement les yeux marrons avec des cheveux et une peau foncée. Pour cette étude, les chercheurs sont parvenus à extraire donc un génome de haute qualité, donc contenant une grande variété de séquences d'ADN, chez l'un des spécimens de Ranis, qu'on appelle Ranis 13, mais aussi dans le crâne retrouvé à Zlatikoun. Ces deux échantillons de haute qualité ont permis d'établir un lien étroit de parenté génétique entre les humains de ces deux sites, qui seraient donc issus d'une même famille génétique. Le lien établi entre les individus de Ranis et de Zlatikoun nous éclaire aussi sur leur relation avec les autres fossiles de la même période, autour de 40 à 50 000 ans, et surtout sur leur parenté avec les humains actuels.
Donc là, ce que l'on voit avec ces nouveaux résultats, c'est qu'on a une population d'Homo sapiens anciens qui arrive ou qui sort d'Afrique et qui rencontre des Néandertaliens et qui va se mélanger avec eux. Et on a une nouvelle date pour ce mélange et on le place à environ entre 45 et 49 000 ans, ce qui est un peu plus récent de plusieurs milliers d'années que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Et ce que l'on voit, c'est que la population d'Homo sapiens qui s'est hybridée avec ces Néandertaliens est vraiment la population souche de toutes les populations que l'on connaît ensuite en Europe et en Asie.
Ce papier nous permet donc d'avancer la date à laquelle la population souche des humains modernes se serait hybridée avec l'homme de Néandertal et présente le groupe de Ranis Zlatikoun comme le premier à se séparer du tronc commun, bien qu'il ne soit à l'origine d'aucune population ultérieure connue. On sait grâce à cette étude que ce groupe ne s'est plus mélangé avec les Néandertaliens par la suite, signe qu'il aurait pu prendre une route différente en sortant d'Afrique. Cette nouvelle connaissance nous permet aussi de dire que des fossiles humains modernes âgés de plus de 50 000 ans et trouvés hors d'Afrique serait alors issu d'une vague de migration antérieure et ne pourrait donc pas être des ancêtres des populations eurasiatiques actuelles. Voilà donc un nouveau jalon ajouté à notre connaissance de l'épopée d'Homo sapiens.
Merci Alexandre pour votre chronique qui est à retrouver sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui Alex Dang. N'hésitez pas à nous suivre sur Blue Sky @science CQFD. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.